Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous permettez que je vous dise quelque chose de personnel ? Allez, je me lance. La musique va peut-être m'aider à vaincre ma timidité. J'ai pour vous, Michel Perrault, une admiration de midinette. Pour votre œuvre d'historienne, évidemment, mais aussi pour votre manière d'être, et depuis si longtemps, intensément d'aujourd'hui, avec cette rage de l'expression qui est tout à la fois de douceur, de force et de précision. Si l'historien est l'ogre de la légende, vous avez faim de contemporain, avec cette évidence juvénile qui est la vie même. Seulement voilà, la contemporanéité, c'est un combat, et ce combat ne peut se mener seul. Il faut, pour voir venir le temps, ne jamais cesser de lire, ne jamais cesser de penser contre soi-même, ne jamais cesser de faire circuler la parole. C'est ce que vous faites avec l'avocate et écrivaine Vassila Tamzali, grande voix du féminisme algérien, magnifique écrivaine en colère. Mais la colère, ce n'est pas ici la véhémence aveugle. Non, la colère, elle désigne poétiquement le refus de l'inattention. Certains pérorent pour élever des murs, vous conversez pour y ouvrir des brèches. C'est ce que vous écrivez, Vassila Tamzali, dans ce beau livre qui vient de paraître, empruntant au poète Khalil Gibran le vers qui lui donne son titre « La tristesse est un mur entre deux jardins ». Avec Manon Pignot, qui nous rejoindra dans la seconde partie de l'émission, nous sommes heureux de vous accueillir au son et au rythme de notre beau générique composé par Thomas Gubitsch. Parce que ce que vous avez à nous dire sur les mémoires et les féminismes de part et d'autre de la Méditerranée pour que s'ouvrent des brèches dans ce que l'écrivain Louis-Philippe d'Alembert appelle le mur Méditerranée est à la fois sensuel et brutal, mélancolique et décidé, inexorable et syncopé, comme un tango. Bonjour Michel Perrault.
Bonjour Patrick Boucheron, bonjour. Merci beaucoup.
Bonjour Vassila Tamzali.
Bonjour.
Alors Michel Perrault, on commence par vous, votre œuvre d'historienne est immense depuis votre thèse d'État monumentale sur les ouvriers en grève, parue en 1974, jusqu'à Histoire des chambres et Georges Sand à Nohant. Une partie de vos travaux a été rassemblée dans un beau volume chez Bouquin, Le chemin des femmes. Mais à celles et ceux qui n'ont jamais lu de Michel Perrault, je dirais d'abord qu'ils ont de la chance parce que de beaux moments les attendent et qu'ils pourraient peut-être commencer par Mélancolie ouvrière, magnifique portrait de femme, Lucie Beau, qui mena les grandes grèves dans les filatures de tissage de la soie à Vizy-les-Voirons en 1905. Revoilà la mélancolie, mais elle caractérise mal votre livre, qui est, je l'ai dit, énergique et joyeux. D'où vous est venue l'une et l'autre cette ardeur à converser et cette joie aussi de confronter les idées?
Eh bien, c'est quelque chose qui nous a été demandé, dont nous n'avons pas pris l'initiative véritablement. Coup de téléphone d'Odile Jacob à Vassila, qui le dira mieux que moi naturellement. Coup de téléphone de Boris Cyrulnik à moi, nous demandant à chacune, est-ce que vous accepteriez de dialoguer avec Michel Perrault, avec Vassila Tamzali. Bon, nous nous connaissions sans bien nous connaître. Je connaissais bien les livres de Vassila, Une éducation algérienne, qui est un livre formidable, que tout le monde devrait lire d'ailleurs, parce que ça introduit vraiment au problème de l'Algérie contemporaine. Et puis Une femme en colère, où elle avait dit ses positions par rapport au voile, aux féministes françaises, etc. Enfin, beaucoup de choses.
C'était en 2009, voilà. Une 2009, femme en colère.
Oui. Voilà. Oui.
Mais depuis, d'une certaine manière, Vassila Tamzali, si on prend, disons, les livres qui sont parus en 2009 et qui apostrophaient comme ça, avec vigueur, les féministes européennes sur, justement, l'universalité, beaucoup de ces livres, 15 ans plus tard, se sont... je veux pas dire radicalisé, mais enfin, en tout cas, caricaturé, exagéré. Et là, avec Michel Perrault, d'une certaine manière, vous avez une conversation qui, et c'est ça que je trouve magnifique, eh bien, rend simple et accessible cette question de l'universalité et de la diversité.
Oui, d'abord, Une femme en colère n'est pas un livre radical.
Non.
Bon, vous savez, vous connaissez l'intérêt des éditeurs pour avoir des titres un peu putschy comme ça. Donc, Une femme en colère, ça portait un livre. D'ailleurs, j'étais contente de voir que notre éditrice acceptait ce vers de poésie qui va un peu à l'encontre des titres habituels. Dans ce livre, je parle déjà de l'universalité, mais La chose qu'il faut savoir quand même, c'est que j'ai apostrophé les intellectuelles françaises, mais on m'a jamais proposé d'avoir un long débat avec une féministe française. Et j'ai à cet égard quelque chose qui n'a jamais été résolu, dont je parle dans une éducation algérienne, c'est l'échec. En partie, c'est comme ça que je caractérise un peu l'échec des rapports entre peut-être l'Algérie et la France, d'une certaine manière. C'est que à l'indépendance, on est passé du statut d'indigène au statut de différent. Mmh. On était les autres. Et ce que j'avais espéré, toujours faisant dans cette arrière-pensée universaliste, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une différence, mais d'une altérité.
C'est ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, oui. Vous avez dirigé à l'UNESCO le programme pour la promotion de la condition des femmes en Méditerranée. Or, l'UNESCO, Vassila Tamzali, défend à la fois la diversité des cultures et l'universalité des droits. Et au fond, c'est une question que je peux vous poser à toutes les deux. Comment se fait-il qu'à rebours de toute l'histoire des féminismes, on s'enferme dans le débat stérile, en somme, et hargneux entre universalistes et différentialistes, alors que, justement, vous le dites l'une et l'autre, la notion d'altérité peut, sinon les réconcilier, du moins les rapprocher.
Je pense que le débat féministe ne peut pas être exclu des autres débats. Et que, en fin de compte, sur cette question d'altérité, en tout cas cette charge contre la différence culturelle, je suis contre la différenciation culturelle, qui a été un des thèmes importants aux Nations Unies, hein, il faut pas l'oublier, qui a été d'abord lancé aux Nations Unies, avant de devenir un thème de discorde, en quelque sorte, entre les féministes sur le terrain, en France surtout. Parce que en Italie et en Espagne, j'ai moins rencontré cette opposition. Je crois que le grand problème dans ce pays, dans la France, c'est que on n'arrive pas à sortir de cette idée du colonialisme, et que c'est ça qui finit par s'agréger à toutes les questions. Et je pense que derrière la question du voile, il y a quand même aussi cette question de le monde arabe, le monde qui est vu à travers l'Algérie d'ailleurs, et qui n'est pas du tout le monde arabe, puisque ce sont des... Et le monde musulman, voilà.
Michel Perrault, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a dans votre livre, il y a un moment très touchant, le souvenir d'une étudiante haïtienne qui vous reprochait de ne pas la voir vraiment. Et au fond, j'ai le sentiment que ce livre débusque l'innommé. C'est-à-dire que on ne voit pas parce qu'on ne sait pas nommer.
Oui, absolument. Je raconte cette histoire d'une étudiante qui faisait une thèse avec moi et bon, qui était colorée, bon, qui était haïtienne. Et moi, je m'en occupais pas du tout. Et à la vérité, c'est vrai que je ne la voyais pas. Je ne la voyais pas parce que je voulais pas la voir. Et puis c'était comme ça. Et elle me l'a reproché. Et elle me dit, mais vous voyez bien, j'ai les cheveux frisés. Et je suis noire. Mais je lui dis, mais vos cheveux sont très bien. Et votre couleur de peau est très bien. Enfin, ça n'a aucune importance. Et elle pensait que ça avait de l'importance. Et elle pensait qu'elle était stigmatisée à cause de ça. Par conséquent, ça pose dans le cas précis, ça pose le problème de la conscience des différences. Et personnellement, il me semble que, certes, l'altérité, c'est une posture importante. Et Vassila y insiste beaucoup. Mais à un moment donné, c'était assez normal aussi que on déchire un peu le voile de l'universalisme qui risquait d'être un discours recouvrant des différences vécues différemment et parfois douloureusement.
Alors le voile, justement, puisque c'est pas la peine, effectivement, de louvoyer sur cette question. Frantz Fanon, qui est souvent cité dans votre livre, écrit en 1958, « Si on voile les femmes en Algérie, ce n'est pas pour voiler les femmes. » C'est-à-dire qu'effectivement, ça vous le dites très bien, c'est pour, au fond, donner à voir la figure héroïque d'un peuple en lutte, ces voiles blancs qui glissent glorieux.
Exactement.
Dans le film de Pontecorvo, La bataille d'Alger. Mais ce que vous dites, Vassila Tamzari, et vous le dites notamment dans Une femme en colère, c'est qu'il dit ça non pas pour différencier, mais pour désigner le piège qui est tendu aux femmes algériennes. Parce qu'à partir du moment où ça devient effectivement le signe d'un peuple en lutte, eh bien, on oubliera de voir que c'est aussi effectivement l'instrument directe de l'oppression.
Oui, j'ai souvent utilisé cette phrase de Fanon quand j'avais dans le public des jeunes femmes d'origine algérienne, des Françaises, qui évidemment, dans un mouvement comme ça d'autodéfense pratiquement par rapport au racisme, par rapport à beaucoup de choses, défendaient le voile. Et je leur citais toujours la phrase de Frantz Fanon. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y avait une chose qui a été, que j'ai pas voulu mettre parce que je la trouvais un peu superficielle. C'était cette blague dans un hôpital de psychiatrie de quelqu'un qui se prend pour un grain de blé. Mmh. Et qui, à la fin, arrive à dire « oui, je suis un homme ». Et quand on lui demande de sortir, il dit « non, mais moi, je sais que je suis pas un grain de blé, mais les coqs ne le savent pas ». Et je dis toujours aux jeunes filles, quand vous mettez votre voile, c'est pour affirmer une forme de dignité, que je comprends. Mais quand vous allez dehors, ça va être interprété comment ? Ça va être interprété comme un acte de soumission. Alors maintenant, pour revenir à la question du voile, si vous voulez, c'est que je ne suis pas contre le voile, je suis contre les discours sur le voile. Et je vais essayer d'expliquer, parce que moi, ma grand-mère était voilée. Elle portait un voile, un haïk. Et j'ai la preuve que ce voile est une attitude sociale plutôt que religieuse, et que, peu à peu, il finit par l'habitude, pour reprendre l'expression de Bourdieu, de se dissiper. Or, la question, pourquoi je m'insurge, pourquoi je suis en colère, c'est parce que, d'une certaine manière, dans certaines positions féministes que je conteste, je vois davantage une manière de délégitimer le féminisme que je porte que prendre la défense de ces femmes. Vous voyez ? Et donc, je suis pas contre le voile, mais je suis contre les discours sur le voile. Et si vous permettez, je dirais sur l'innommée que dans ce livre, Une femme en colère, je me nomme l'innommée parce que contrairement à votre ami, quand je suis venue en France, quand je disais « je suis une femme algérienne », tout le monde était d'accord, parce que derrière moi, il y avait les Djamilas, les femmes libres, etc. Et qu'avec le temps qui passait, au niveau européen, dans mon travail, je n'étais plus reconnue comme une femme algérienne. Voilà.
Un mot peut-être, Michel Perrault, justement, à l'écoute des mots. C'est la beauté de cette conversation. Vous écrivez « me too », et au fond, on n'entend plus ce que ça veut dire. Me too, moi, dans ma singularité, aussi dans ma similitude. Ce qui m'arrive est dissible parce que je ne suis pas seul à le vivre. La différence conduit souvent soi et l'autre à deux solitudes, écrivez-vous. Et là, vous adressez à votre ami. L'altérité conduit à la rencontre avec l'autre. Me too est sans doute un facteur d'altérité dans l'universalité. C'est ça, au fond, la résolution de ce faux dilemme.
Oui, tout à fait. Et je trouve d'ailleurs que l'expression « me too » est très profonde. Hein, on vient de le dire, chacun, chacune, dans sa singularité, met tout, c'est-à-dire les autres. Hein. Et c'est ça le chemin, finalement. Hein. C'est à la fois, je pense, qu'on peut se revendiquer de l'individualité. Les femmes ont eu beaucoup de difficultés à conquérir leur individualité. Donc c'est un combat, et c'est important, mais il faut pas s'enfermer là-dedans, hein, parce qu'il y a une collectivité, il y a un commun, un sens commun, un bien commun, qui est à la fois masculin et féminin, féminin et masculin. C'est important.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour Manon Pinault.
Bonjour.
Comment vous le comprenez, le titre un petit peu nostalgique ou mélancolique, la tristesse est un mur entre deux jardins. Je suis sûr que vous y voyez quelque chose de plus énergique.
Oui, exactement. C'est ce que je voudrais dire à nos auditeurs. C'est que la mélancolie profonde de ce titre, de ce vers emprunté au poète Khalil Gibran, ne doit pas laisser croire que le livre l'est. Je voudrais dire ça. C'est-à-dire que je l'ai trouvé ni nostalgique, ni désabusé. J'ai trouvé que c'était un livre combatif, curieux, et aussi sans concession pour notre époque actuelle. Et un enthousiasme communicatif qui donnait envie, en fait, c'est exactement ça, l'impression que j'ai eue en refermant le livre, c'est qu'on avait envie d'entrer dans votre conversation. On avait envie d'y participer, soit pour abonder dans votre sens, soit pour vous apporter des formes de contradiction. Mais c'est cette énergie que j'ai trouvée de donner envie d'entrer dans votre conversation à l'une et l'autre. Et donc, pour reprendre un titre d'une autre émission de France Inter qui n'existe plus, je pense que ce livre est un remède à la mélancolie.
Oui, ben on va en parler tout à l'heure après avoir entendu la grande soprano égyptienne Fatma Saïd. Code infâme, dit George Sand, encore si pleine des rêves de la Révolution française à propos du code civil napoléonien qui consacre le pater familias. Le code de l'infamie, diront des siècles plus tard les femmes algériennes à l'adoption en 1984 du code de la famille par l'Assemblée parlementaire algérienne, aussi déçues que Sand par leur révolution. J'aime ces croisements. C'est Vassila Tamzali qui parle dans ce livre de croisements et de correspondances qu'elle signe avec Michel Perrault sous le titre « La tristesse est un mur entre deux jardins ». On en parle dans Histoire 2 avec Manon Pignot. Un mot, sans doute, par cours, inquiète toute cette conversation. Ce mot, c'est celui de réparation, Manon. Est-ce qu'on est du côté du bricolage, du tissage, du féminin? Tout ça est dit, plus ou moins, mais certainement pas de la restauration. La réparation, c'est pas revenir avant.
Non, certainement pas. C'est plutôt la... Je suis en train de chercher ce mot de cet art japonais de réparation des vases.
Le kintsugi.
Le kintsugi, merci, oui. Que Vassila Tamzali évoque à plusieurs reprises dans le livre, qui est comment réparer, si j'ai bien compris, un vase brisé avec de l'or. Donc finalement, fabriquer un objet plus beau encore à partir des brisures. Et le sous-titre du livre, c'est « Algérie, France, féminisme ». Et il m'a semblé en effet que cette notion de réparation, à laquelle vous arrivez d'abord à propos, non pas tant de la guerre d'Algérie que de la colonisation de l'Algérie et des suites et des conséquences de cette colonisation, et que vous opposez de façon extrêmement convaincante à la notion de repentance, cette notion de réparation, il me semble qu'elle fait aussi le lien entre les deux thèmes qui occupent le livre, la question algérienne et la question féministe. Et donc, c'est la première question que je voulais vous poser. En quoi, selon vous, l'une et l'autre, le mouvement MeToo peut être lu aussi au prisme de cette notion de la réparation ?
Nassila, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez beaucoup insisté sur la notion de réparation, justement ?
Alors, dans MeToo, la réparation, elle est prise en charge dans la mesure où il y a une énonciation de la discrimination. Il ne peut y avoir réparation que si on a énoncé ce qui avait été contraire à l'ordre du monde. Et d'une certaine manière, le cuissage, comme le harcèlement sexuel, comme se faire payer là-dessus, comme l'ont fait les producteurs, le producteur américain, c'est contraire à l'ordre du monde. Mais il faut du temps pour qu'on s'en aperçoive. Et il faut du temps pour qu'on le dise. Et je pense que aujourd'hui, ce que les Algériens attendent, c'est ça. C'est qu'on énonce que la colonisation, c'est contraire à l'ordre du monde. C'est pas une réparation. Parce qu'on ne peut pas réparer. C'est irréparable.
Irréparable. Voilà. Michel Perrault.
Ce dont j'ai pris conscience dans le dialogue avec Vassila, c'est de cela. Hein. C'est-à-dire que décolonisation, on voit ça comme une action positive, voilà. Mais le colonial, c'est-à-dire ce qui a pesé pendant si longtemps sur des cultures, qui a brisé les choses, c'est beaucoup plus difficile. Et je comprends bien aujourd'hui qu'on parle de colonial à côté de décolonisation. Mmh. Et l'autre chose, c'est que la difficulté extrême de la réparation, ça, il faut aussi en avoir conscience. Peut-être que ce n'est même pas possible. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais du moins, il y a un chemin vers l'autre qui est au moins ouvert.
Je vous propose d'écouter Gisèle Halimi, avocate comme vous, Vassila Tamzali, qui, dites-vous, a été habitée par la cause de la décolonisation de l'Algérie, mais ce fut aussi votre cas, Michel Perrault. Elle évoque Djamila Boupacha, qui a été arrêtée le 19 février 1960 pour une tentative d'attentat à Alger, emprisonnée, torturée. Et rappelons que le comité de défense de Djamila Boupacha, présidé par Simone de Beauvoir, s'est d'abord battu pour qu'elle soit jugée en France, afin d'alerter l'opinion française sur la torture en Algérie. Écoutons donc son avocate Gisèle Halimi.
Nous sommes en 58 et André Malraux reconnaît qu'il y a eu des tortures. Il dit on a torturé en Algérie, mais on ne torture plus. Ce que nous, les avocats, nous tuions à essayer de faire établir. On en était à montrer des traces de torture. Quelquefois, il y en avait. Dans le cas de Djamila Boupacha, il y avait des trous de cigarettes dans les seins. On l'accusait d'avoir déposé une bombe à la faculté à la brasserie des facultés. Elle a été arrêtée, détenue par les paras dans un centre de torture. On connaissait les centres de torture. Moi, je sais que quand je suis entrée dans le casino de la torture, j'ai vu des parachutistes porter un homme, un supplicié. C'est épouvantable. Mais je l'ai vu.
Gisèle Halimi, en 2011, et c'est elle qui a refusé le marché proposé par l'État français qu'elle passe pour folle, et elle aura la vie sauve. Elle fut condamnée à mort et graciée par les accords d'Évian. Mais cela dit, c'est une figure assez compliquée dans la mémoire combattante algérienne, comme l'a montré Christelle Tarot notamment. Elle a été quand même écartée du souvenir officiel du FLN assez vite.
Djamila n'a pas été écartée. Djamila s'est écartée. J'ai essayé de rencontrer Djamila Boupacha pour le centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir. Et j'ai publié un article dans Les Temps modernes. Et elle a beaucoup voulu me voir, puis après elle a refusé. Et quand je lui ai dit, voilà, je veux vous voir pour ça, elle m'a dit, je ne veux plus parler de cette époque.
Michel Perrault.
Oui, le problème des femmes algériennes qui n'ont pas eu finalement accès au pouvoir alors qu'elles s'étaient engagées dans la guerre d'Algérie. C'est un exemple parmi bien d'autres des difficultés des femmes à accéder véritablement au pouvoir alors qu'elles se sont même engagées. Ça a été très bien raconté dans le livre de Djamila Amran qui s'appelle les femmes algériennes, qui raconte tout ça.
Manon Bingot.
Du coup, je voulais faire le lien de ce que sur cette notion de réparation que vous évoquez et de cette réparation qui, pour le moment, est avortée, enfin inaboutie. Il y avait deux choses qui me venaient. La première, c'est cette idée que, pour parler du point de vue français, on attendrait dans ce processus de réparation, si on voulait qu'il soit mené convenablement et à son terme, on attendrait une prise de parole forte. Et j'ai pensé à plusieurs moments dans vos échanges au discours de Jacques Chirac en 1995, le discours du Veldiv, sur la reconnaissance, la première reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est peut-être une manière éventuellement de revenir brièvement sur la question du rapport Stora, la question aujourd'hui de la position finalement un peu intermédiaire qui a été choisie par la France, qui ne tranche pas véritablement sur une reconnaissance, une énonciation des faits.
Précisons que le 20 janvier 2021, l'historien Benjamin Stora, dont il est souvent question dans votre livre, a rendu au président de la République un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Il y a différentes préconisations. Et c'est, au fond, l'opposition entre vous deux dans le livre qui est nullement euphémisée sur ce rapport Stora. Vous écrivez, Michel Perrault, « Nous ne le voyons pas de la même façon pour des raisons personnelles et collectives ».
Oui, c'est peut-être le seul point sur lequel nous divergeons un petit peu, mais ça se comprend, au fond, on n'est pas dans la même situation non plus. Pour ma part, d'un côté, j'ai beaucoup d'estime pour les travaux de Benjamin Stora, qui est quand même un grand historien, avec bien d'autres, de l'Algérie, et je pense que le rapport Stora, c'est un pas, et c'est tout de même la première fois malgré tout, qu'un président de la République reconnaît tout cela. Hein, et par ailleurs a été aussi reconnaître le massacre des Algériens de 1961. Donc, il me semble qu'on va dans la bonne direction. Bien entendu que c'est probablement, et ça c'est Vassila qui le dira, peu de choses par rapport au drame qu'a été l'Algérie et aux blessures profondes qui ont été faites. Mais enfin, pour ma part, je suis pour. Voilà.
Et vous, Vassila, vous dites pas que c'est peu de choses, mais vous dites que c'est pas assez.
Je reprendrai pas les mots de Michel parce qu'elle vient de dire ce que j'ai vraiment l'intention de dire, que c'est beaucoup plus grave que... Écoutez, d'abord, le problème, c'est pas le rapport Stora. Il faut pas déplacer les problèmes. Et ce que je veux dire, c'est que, du coup, cette idée généreuse de faire des petits pas me met dans une position très inconfortable. C'est-à-dire que je refuse de faire quelque chose pour la réconciliation. C'est-à-dire que on nous met dans une position extrêmement inconfortable d'avoir à revenir toujours sur le même sujet. Vous savez, je vois beaucoup d'ennuis dans le regard de mes amis. Mes amis. Alors j'imagine le public. Et on est vraiment dans cette position d'avoir toujours à répéter. Et c'est une position extrêmement inconfortable. Si j'étais sûre que la politique des petits pas pouvait apporter quelque chose. Mais je suis sûre que c'est le contraire. Parce qu'on est en train de vider de son énergie la question. On est en train de vider ce drame de son feu. Et c'est en travaillant sur le feu du drame qu'on peut espérer une transformation initiatique. C'est-à-dire que moi, mon souci, si vous voulez, c'est pas le rapport Stora. Mon souci, c'est de comprendre pourquoi le peuple algérien est dans cette impuissance. Comment le Hirak, qui a réuni des millions de gens dans la rue, n'ont pas pu aboutir.
Le mouvement populaire depuis 2019.
Exactement. Et c'est pas seulement depuis le Hirak. Il y a eu 88, il y a eu... Et nous sommes des gens intelligents, nous sommes des militants, nous sommes des résistants. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire le pas?
Et pour vous, Vassila Tamzari, en fait, la réparation, c'est une manière de lâcher prise, une manière de renoncer au ressentiment.
Ne parlons plus de réparation. Il faut savoir, et on ne peut pas réparer, nous avons besoin d'entendre. C'est-à-dire que nous sommes en train de construire, d'écrire notre récit national. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les intellectuels et les artistes font un gros travail là-dessus. Parce que c'est les seuls qui le font avec beaucoup de sincérité. Et dans ce récit national, il y a une partie qui ne peut être écrite qu'en écho avec ce que la France dira sur la colonisation. Nous sommes dans cette attente, nous sommes au-dessus d'un trou énorme. C'est pas une question de mémoire, nous avons la mémoire, mais c'est un trou. Si vous avez vu un film qui s'appelle « Leur Algérie », ce couple d'émigrés qui ne se parlent jamais et qui sont dans un silence effrayant, qui ne savent même pas dire leurs émotions. Quand j'ai vu ce film, j'ai compris que nous étions... On a l'habitude de dire que les Algériens sont des taiseux, mais c'est plus que taiseux. Ils sont assis sur un silence, vous voyez.
On sent, Michel Perrault, que ça vous a aussi ébranlé, touché, inquiété, cette question-là. Cette
beaucoup,
question,
beaucoup,
et que,
beaucoup.
Voilà,
bien
votre
sûr.
Position, elle est avec... Effectivement, cette vous citez Michel Foucault sur ce maître de l'inquiétude, ce qui nous apprend à penser contre nous-mêmes.
Bien sûr.
Et là, d'une certaine manière, sur cette question, vous apprenez aussi à penser contre vous-même.
Oui, absolument, parce que on avait l'impression qu'on avait réglé la question, hein. Bon, qu'on avait fait presque notre devoir, voilà, hein. On avait été contre la guerre d'Algérie, c'était fini, l'Algérie est indépendante, etc. Et on s'aperçoit que c'est pas comme ça. Et que nous avons des responsabilités de longue date. Ceci étant, il y a quand même maintenant 50 ans que l'Algérie est indépendante. J'allais dire, modestement, enfin, tout n'est pas non plus la faute de cet héritage. Enfin, les responsabilités sont compliquées dans cette histoire-là. Mais les nôtres, il ne faut pas les oublier.
Il y a des devoirs de mémoire, mais il y a aussi le devoir des historiennes et des historiens de documenter justement ce récit. Manon Pignot, vous vouliez rapidement nous parler d'une initiative, celle de Malik Haral et de Fabrice Ricciaputi, parce que au fond, à partir de, on n'en a pas parlé, mais c'est dans le livre de Maurice Audin et de cette phrase de Pierre Vidal-Naquet, la guerre d'Algérie a entraîné des milliers et des milliers d'affaires Audin sans laisser d'argent. En fait, les archives, oui, mais les corps, non.
Exactement. Et c'est pour ce silence que vous évoquez, Vassila Tamzali, et à plusieurs reprises dans le livre, cette expression de membre fantôme, hein, le membre qu'on continue de sentir même quand il a été amputé, et cette place centrale des corps, des morts. Et ça m'a fait effectivement penser à ce projet qui s'appelle « Mille autres ». C'est un site hébergé par le comité Maurice Audin et animé par une historienne et un historien, Malik Haral et Fabrice Ricciaputi, et qui ont consacré depuis 2018 un travail immense dans les archives pour réidentifier les milliers de disparus de la bataille d'Alger, à partir pour certains des fiches qui se trouvent encore dans les archives nationales d'outre-mer, Aix-en-Provence, et aussi à partir des témoignages des familles de ces milliers de disparus. Et c'est très ce site et ce projet milleautres.org est absolument fascinant, notamment parce que quand on arrive sur le site, la première chose qu'on voit, ce sont des photographies, des visages et des noms. Et donc, c'est renommer ces corps disparus et finalement essayer de faire réapparaître ces membres fantômes.
En français et en arabe, puisque c'est aussi un des enjeux de votre livre, la langue. La langue qui, écrivez-vous, est un obstacle à surmonter, comme un mur entre deux jardins. Et il y a à la fois le français qui est ce butin de guerre, comme le dit Kateb Yassine, l'arabe qui est la langue du père, comme vous le dites, Vassila Tamzali, et le français malgré tout que vous utilisez l'une et l'autre, mais dont vous écrivez magnifiquement que vous êtes occupé, trop occupé par la langue française, occupé comme un pays peut l'être.
Oui, c'est venu comme ça, c'est un jeu de mots un petit peu, mais bon, j'ai un problème avec les langues étrangères, j'en ai pas. J'ai une langue qui me sert de langue étrangère et de langue maternelle, mais ce que j'ai appris et remarqué en lisant Derrida, par exemple, c'est que on pouvait avoir une langue absente et qui était là. Et c'est pour ça que je ne veux pas résilier, je veux pas résilier ma langue arabe. Je devrais tourner la page et dire « Ok, bon, ben, je parle que le français. » Non, je parle le français et je parle l'arabe. Mais d'une certaine manière, puisqu'elle est absente.
Et pour vous, Michel Perrault, écrire l'histoire, c'est aussi l'écrire dans sa langue. On l'a bien entendu faire sonner les mots, nous rappeler ce que « me too » veut dire, par exemple.
Oui, la langue, c'est absolument essentiel, bien entendu. Le rêve d'en avoir une autre, pour moi, oui, bien sûr, l'arabe pourrait être un rêve. Hein, ça peut être un rêve, parce que je ne connais pas du tout, hein, mais qui serait accéder vraiment profondément à une autre culture. Je pense que ça nous manque tout de même, beaucoup. Il y a là un manque.
Ça nous manque, mais en vous lisant, on comprend, Michel Perrault et Vassila Tamzali, que la révolution des femmes dont vous parlez, je vous cite les derniers mots de Michel Perrault, est encore inachevée et qu'elle doit se frayer un chemin pour changer le monde. C'est le dernier mot. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est pour ça que vous voulez rien lâcher, en fait. Vous voulez savoir comment ça va tourner, tout ça. Se frayer un chemin pour changer le monde, on n'en a pas fini.
Non,
donc c'est pas le moment d'arrêter de lire, d'arrêter de...
Tout commence.
L'histoire n'est jamais finie, nous le savons bien, c'est toujours à recommencer, à refaire, ce qui est peut être fatigant d'un certain côté, mais qui est quand même passionnant. Hein. Et par conséquent, plus que jamais l'histoire, plus que jamais le chemin, plus que jamais continuer.
Merci Michel Perrault, merci Vassila Tamzali, merci Manon.
Merci beaucoup.
Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Johanna Gabric. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter, à la page de notre émission. Bon dimanche sur France Inter.